Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce lundi, nous sommes le 8 février. Les premières doses de vaccin AstraZeneca injectées samedi à l'hôpital Édouard Herriot. L'épidémie de Covid-19 semble continuer sa progression sur un plateau élevé dans le département, les derniers chiffres du week-end. Les contrôles du couvre-feu se multiplient, contrôles sur la ligne de métro D, mais aussi à Vénissieux, où les forces de l'ordre ont été victimes de jets de bouteilles. Le réchauffement climatique, des chiffres dans ce quart d'heure lyonnais concernant la région Auvergne-Rhône-Alpes. Décorer son logis de manière éco-responsable, c'est possible avec Tizu, explication dans le courant de cette édition. Et puis à la fin de ce quart d'heure lyonnais, les résultats sportifs du week-end.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Les 100 premières doses du vaccin AstraZeneca injectées en France ont été administrées samedi en début d'après-midi au centre de vaccination de l'hôpital Édouard Herriot. Les 7700 doses arrivées la veille à la pharmacie centrale de Saint-Genis-Laval vont être injectées ces prochaines semaines. L'épidémie de Covid-19 semble continuer sa progression sur un plateau élevé dans le département. Alors qu'on dénombre 14 nouvelles hospitalisations durant le week-end, le nombre de patients en réanimation, 140 est orienté à la baisse avec une personne en moins par rapport à vendredi. 4 décès sont survenus pendant le week-end, portant leur total à 2237 depuis le début de l'épidémie en mars 2020 dans le Rhône. 31 personnes ont pu regagner leur domicile depuis vendredi. La France a enregistré 19 715 nouveaux cas positifs ces dernières 24 heures et 171 personnes supplémentaires sont décédées des suites de la maladie. Par ailleurs, le nombre d'hospitalisations est reparti à la hausse après avoir enregistré une légère baisse samedi. Actuellement, 27 694 patients sont hospitalisés, 325 de plus, dont 3272 en réanimation, 47 en plus.
Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
Une soixantaine de policiers a été déployée vendredi entre 19h et 20h au niveau de la ligne D du métro, entre les stations Gardevez et Bellecour. Objectif, lutter contre la délinquance et contrôler surtout le port du masque et l'attestation de déplacement dérogatoire en période de couvre-feu. Lors d'un contrôle et d'une verbalisation pour non-respect du couvre-feu mercredi dernier à Vénissieux, les forces de police ont été victimes d'un jet de bouteille de la part d'un Vénitien de 19 ans. Les policiers ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser un groupe d'individus installés avenue Vladimir Komarov. Le jeune majeur, auteur du jet de bouteille, a alors tenté de profiter de la confusion pour s'enfuir, mais il a finalement été interpellé et il sera jugé. À Saint-Quentin-Falavier, un détenu de 70 ans se suicide en prison samedi matin. Le septuagénaire, qui portait des traces de scarification, a été découvert dans les toilettes de sa cellule. Le personnel pénitentiaire a tenté de lui prodiguer les premiers secours, en vain. Incarcéré récemment à Saint-Quentin-Falavier, l'homme était détenu pour une affaire criminelle de mœurs. Une manifestation a été organisée hier devant le palais des 24 colonnes, l'ancien palais de justice, afin de demander justice pour Julie. La jeune femme soutient avoir été violée à l'âge de 13 ans par une vingtaine de pompiers dans la région parisienne. 200 personnes ont répondu à l'appel d'oser le féminisme. D'autres manifestations étaient organisées à travers le pays. 10 ans après son viol, seuls 3 des hommes avaient été mis en examen pour viol en réunion sur mineurs, mais les faits ont été requalifiés en atteinte sexuelle. La Cour de cassation doit réétudier le dossier mercredi. Les organisations féministes se battent notamment pour soutenir la famille de la victime qui refuse le consentement qu'implique l'atteinte sexuelle. Elles luttent pour que les faits soient de nouveau qualifiés de viol, ce qui relèverait donc du crime et non plus du délit.
Lyon demain, la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde.
Entre 1960 et 2019, la température moyenne a augmenté de 2,2 degrés en Auvergne-Rhône-Alpes. D'après un calcul effectué sur 12 stations départementales de mesures météorologiques, le climat de la région n'échappe donc pas aux tendances nationales et mondiales. Cette augmentation est plus marquée au printemps et en été, plus 2,2 degrés en moyenne au printemps, plus 2,7 degrés en moyenne en été sur l'ensemble du territoire régional. Entre 59 et 2018, la température a a augmenté plus précisément de 3 degrés en été dans l'Ain et dans le Rhône. La hausse existe aussi en hiver, mais plus modérée, 1,8 degrés dans l'Ain, 1,7 degrés dans le Rhône. Et la machine s'emballe ces dernières années. Depuis 1990, les années de forte chaleur augmentent en fréquence et en intensité. Le nombre de journées chaudes avec une température maximale supérieure à 25 degrés croît en tout point du territoire régional. En près de 60 ans, le Rhône comptabilise une moyenne de 24 jours de plus avec une température supérieure à 25 degrés. Les projections climatiques montrent une poursuite du réchauffement jusqu'aux années 2050, une évolution significative du climat qui pourrait avoir des répercussions non négligeables sur le tourisme, notamment sur le choix des destinations touristiques et sur la fréquentation des villes moins attractives en été, car écrasées par la chaleur, diminution de l'enneigement et donc fréquentation moindre de la montagne en hiver. Une centaine de cigognes aperçues à Mions, 130 échassiers qui se sont posés samedi en fin de matinée pour le plus grand plaisir de la population. Oiseaux migrateurs, les cigognes ne sont généralement que de passage dans nos régions, en quelque sorte une petite pause technique sur le chemin qui les ramène d'Afrique.
Lyon demain, planète pour tous.
Décorer son logis de manière éco-responsable, c'est possible avec Tisu. Cette entreprise crée des meubles, notamment des tables, avec des matériaux et des tissus récupérés. Une interview au micro de Charlène Robert.
Créer des meubles avec des matériaux récupérés et avec de l'originalité, c'est le pari qu'ont relevé deux ingénieurs de la région, Ludovic Pendarès et Paul Fleurin. Le fruit de leur travail, Tisu. La recette, un mélange entre des matériaux destinés à la benne et des tissus récupérés. Le résultat, des meubles originaux pour décorer votre intérieur. Présentation de l'entreprise avec son fondateur, Ludovic Pendarès.
Tisu, on fabrique du mobilier et du mobilier upcyclé, c'est-à-dire que c'est du mobilier qui est fabriqué à partir de matériaux issus du réemploi. Donc on a tout d'abord des tissus qu'on collecte en fin de vie, ce que vous pouvez retrouver dans les bornes Le Relais, par exemple, qui est collecté auprès des particuliers. Ces tissus en fin de vie, on a développé un procédé de stratification qui leur permet de retrouver de l'éclat, d'en faire un revêtement pour les meubles. Et d'un tissu complètement délavé, dépassé, on va avoir quelque chose qui est vachement coloré, vachement punchy. On va retrouver les fibres qui vont sortir et ça va en faire un vêtement qui résiste à la vie quotidienne, c'est-à-dire ça craint pas les chocs, ça craint pas l'eau, ça craint pas les UV, les rayures, tout ça. Le second point, c'est le bois qui est issu également de collecte, donc ça vient provenir d'une association qui s'appelle INECA, qui collecte les déchets issus des matériaux de construction, qui peuvent encore servir, notamment issus de BTP.
Comment est l'idée de créer Tisu ?
Ça vient du procédé que j'ai décrit auparavant. Ça, c'est l'élément déclencheur, mais avant ça, il y a d'abord une volonté globale de Paul et de moi, qui est de créer une filière industrielle, donc un procédé qui soit répétable, avec du sens, avec des choses qui collent à nos valeurs, donc qui soient écologiquement responsables, qui soient fabriquées localement et pas à l'autre bout du monde, et qui réemploient la matière, des déchets, il y en a des centaines de millions de tonnes de déchets et d'ameublement et de tissus qui sont jetés chaque année. Donc il n'y a pas besoin d'aller créer de nouveaux tissus, de nouveaux objets, d'extraire encore plus de matériaux de la nature pour faire des choses belles. Et donc la volonté, elle est double. C'est d'abord fabriquer et ensuite avec des matériaux qui sont chargés d'histoire, chargés de sens.
Tisu, c'est donc à l'origine une découverte, celle d'un procédé de stratification. Pouvez-vous nous en dire plus ?
On l'a découverte pour faire des skis, en fait. On a complètement détourné un procédé de stratification qui s'applique pas mal dans l'aéronautique, dans le nautisme, les sports de glisse. Donc, en fait, c'est par hasard, en testant ça sur un ski, un vieux ski de sœur de Paul, avec le drap de quand elle était petite. Et ben, il l'a stratifié, il a vu que ça rendait vachement de couleur, que ça faisait quelque chose de pas mal. Il a testé ensuite sur un plateau qui traînait dans le garage, et puis tout de suite, waouh, l'effet très coloré, les fils qui ressortent, mais c'est génial, c'est magnifique. Et de là, après, on a testé, on a mis au point, et puis on a validé que tout était parfait pour l'ameublement.
Quelles sont vos offres ?
Pour l'instant, on fabrique des plateaux, spécialement. Donc des plateaux, une fois qu'on a dit plateaux, bah, très vite, on pense à des tables, donc des tables basses. Mais on fait déjà des bureaux, des tables de salle à manger pour quelques commandes particulières. Et l'ambition de la marque, c'est ensuite d'aller sur tous les classiques de l'ameublement. Donc ça peut être une assise, un tabouret, un banc, une chaise. Ça peut être une commode, une étagère, ça peut être pas mal de choses. On va pas aller dans le très design ou le très décoratif, mais l'ambition, c'est, voilà, c'est de faire les basiques fonctionnels de l'ameublement avec du sens fabriqué localement. Du coup, on a une boutique en ligne, donc on a nos tables basses et bientôt d'autres produits disponibles directement à l'achat, avec les tissus qui nous ont plu, qu'on a collectés au fur et à mesure de nos virées, de nos sorties de Chine, pas mal. Et on a aussi une offre complètement sur mesure, c'est-à-dire qu'on propose à n'importe qui de nous envoyer son propre tissu. Et nous, à partir d'issues qu'on nous envoie, on est capable de fabriquer n'importe quel modèle qu'on a au catalogue. Pourquoi pas des modèles un peu des dimensions sur mesure, on étudie ce genre de propositions aussi.
Vous fabriquez aujourd'hui principalement des tables. Quelles sont les étapes de fabrication ?
On a notre propre atelier. On récupère les plateaux, donc les déchets issus du BTP que je décrivais tout à l'heure. On découpe ces plateaux, on les polie, on les ponce, on les peint. Ensuite, on vient tendre et comme un peu un tapissier, un tissu par-dessus. On va travailler le tissu pour le tendre et en faire comme un plateau drapé. Et ensuite, on vient stratifier. Donc là, c'est un peu le cœur de notre valeur. Donc on vient rajouter un peu de résine. Ensuite, qu'on va travailler et qu'à la fin, on va poncer, on va polir pour avoir vraiment une finition presque polymiroir, assez haut de gamme, assez quali, malgré les prix qu'on pratique qui sont plutôt moyen de gamme.
Pour terminer, pourquoi se tourner vers l'ameublement à la manière de tissu ?
Nos produits, nos tables, elles ont une histoire. Il n'y a pas un produit qui est différent. Si vous avez marre d'aller chez votre ami, chez votre famille, pour retrouver un peu toujours le même style d'immobilier, avec tissu, c'est sûr et certain que personne d'autre n'aura la même. Chaque table est un peu chargée d'histoire avec le tissu qui lui apporte des nuances, des défauts, mais qui ne sont pas des défauts, mais des apparences qui sont vraiment esthétiques, qui sont propres à chaque création. Et en plus de ça, aujourd'hui, le marché de l'ameublement, si vous voulez prendre quelque chose qui soit un peu éco-responsable, fabriqué pas trop loin, dans des matériaux qui soient pas nuisibles à l'environnement, et ben tout de suite, ça va vous coûter trop fort le prix qu'on pratique, quoi. C'est grâce à notre procédé à l'upcycling, au fait qu'on récupère du déchet, et à notre procédé qu'on a développé, on arrive à pratiquer des tarifs qui sont vraiment raisonnables. Plutôt qu'à valeur équivalente à la concurrence, ce ne sera pas du tout la même chose.
C'était Ludovic Pendariès, l'un des fondateurs de Tisu. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site tisu.fr.
Merci Charlène. En une semaine, les démolisseurs ont supprimé les escalators sud de la gare de Perrache. En deux nuits, une grignoteuse est venue à bout des escaliers et du balcon bétonné. Les paliers des étages vont être agrandis et équipés de garde-corps, ce qui permettra de maintenir la vue sur le cours Charlemagne. Le grand portique et la pendule restent en place.
Lyon demain, à la maison, au bureau, dans le bus, en voiture, avec CarPlay ou Android Auto. Lyon demain, accessible partout, même dans les tunnels.
Les résultats sportifs du week-end, 4e victoire consécutive pour l'Olympique lyonnais. Les Lyonnais n'ont laissé aucune chance aux Strasbourgeois, rapidement réduit à 10. Victoire lyonnaise 3-0, doublé de Memphis, 3e but signé Toko Ekambi. Le LOSC s'est imposé 2-0 à Nantes dimanche et a donc repris la tête de la Ligue 1. Toujours en Ligue 1, l'AS Saint-Etienne résiste et bat Metz sur la marque de 1-0. En D1 féminine, toujours en foot, les Lyonnaises l'emportent face à Montpellier 2-1. En rugby, le Loup s'incline à Clermont. Les Lyonnais ont perdu 26-18. Et puis en basket, en Euroleague, l'ASVEL signe une 10e victoire face à Milan, 78-69. Les Villeurbanais ont renversé la vapeur dans le dernier quart-temps. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain, même heure, même antenne. En attendant, passez une excellente journée, mais restez prudents.